Comment dire en un texte la foi chrétienne ? Je crois que c'est compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un texte dans la Bible qui puisse dire toute la complexité et les différents aspects de ce qu'est la foi chrétienne. Et justement, pour quand j'en parlais avec Thierry, que nous accueillerons tout à l'heure pour son baptême en tant qu'adulte, je lui demandais quel texte il aimait, mon âme n'est quatre. Et je me suis dit que ces quatre textes, finalement, faisaient une sorte de carré magique, définissant un petit peu tout ce que peut être la foi chrétienne. Et c'est autour de ces quatre textes que je voudrais me promener aujourd'hui. Le premier, c'est Jean 1, le prologue de Jean. Au commencement était la parole, cette parole était celle de Dieu, cette parole était Dieu, elle était source de lumière, en elle était la vie. Et cette parole, donc, s'est trouvée en Jésus-Christ, présente en Jésus-Christ, qui est chemin, vérité et vie. Ça, c'est le premier aspect de dire il y a dans la foi une dimension de un contenu, une parole. Une parole qui est source de vie, une parole qui nous met dans le bon sens de la vie, autrement dit, parce que l'être humain n'est pas programmé par ses gènes comme un animal qui a ses instincts, et donc il nous faut, pour orienter notre vie, adhérer à un programme, il faut choisir une direction, un idéal, un sens de sa vie. Et donc, la parole de l'Évangile est un bon programme pour la vie et on peut adhérer à ce programme. Ça, c'est le sens premier du mot « foi » dans la Bible. Vous savez que la foi dans la Bible, ça se dit « emouna », qui est le même mot que « amen », que traduit dans nos évangiles par « en vérité ». Et donc « emouna », c'est la certitude, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité, à une vérité. De dire « je crois que c'est vrai ». Et donc oui, quand je lis l'évangile, je crois que Jésus a raison. Je crois que c'est vrai, que le mieux que nous puissions faire dans notre vie, c'est d'aimer, de pardonner, de servir, et que la chose la plus essentielle de l'existence humaine, hors de laquelle il n'y a ni vie, ni lumière, ni bonheur, c'est la grâce, c'est-à-dire la gratuité, le don et l'accueil sans condition. Et donc c'est vraiment une parole source de vie, dirais-je, qui me semble absolument essentielle. Et c'est dans ce sens que quand j'ai été consacré comme pasteur il y a un peu plus de 30 ans dans cette église, j'avais choisi comme verset 2 Timothée 1:12, pour ma prédication d'intronisation, qui est « Je sais en qui j'ai cru ». Pour dire, beaucoup de gens disent que la foi, c'est on ne sait pas, on croit pas, la foi, il y a du doute. J'ai dit, mais moi, j'ai aucun doute. Je sais en qui j'ai cru, je crois dans le Dieu de Jésus-Christ et je n'ai aucun doute là-dessus. Il n'y a pas un moment où je me dis, mais finalement, peut-être que je me trompe, peut-être je ferais mieux de croire dans la haine, dans la vengeance, dans la violence, dans l'égoïsme. Non, aucun doute, l'amour, le don, le service, la générosité, c'est la vérité, point. Et je le prêche, c'est tout. Donc je sais en qui j'ai cru, terminé. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que nous présentons les choses habituellement à nos catéchumènes. Vous savez que bientôt, il y aura le culte des confirmations. Les jeunes à 15 ans, est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils croient pas? Est-ce que c'est des grands professionnels de la prière ou pas? Est-ce que ce sont des mystiques ou pas? J'en sais rien. Mais je leur dis, écoutez, vous savez en gros ce que dit Jésus dans l'Évangile. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Si vous êtes pour, ben vous êtes chrétien. Voilà, cherchez pas plus loin. Il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon en se disant, tous les matins, ai-je suffisamment la foi ou ne l'ai-je pas? Je crois que Jésus a raison, qu'il est vrai, je suis chrétien, terminé. Et puis, ce texte de Jean alors, va plus loin, puisqu'il dit, ce n'est pas simplement une parole à laquelle j'adhère, un message, il dit, cette parole, elle s'est incarnée en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a là une personne qui dit qu'elle est l'incarnation de cette parole, la représentation vivante de cette parole, et que Jésus-Christ a non seulement l'a vécu intérieurement, et donc en a témoigné, et sa vie elle-même est un témoignage de cette parole. Et ça, du coup, on passe là d'une foi purement intellectuelle à une foi qui tout à coup se centre sur Jésus-Christ, la révélation sur Jésus-Christ, Jésus-Christ incarnation de cette parole, et Jésus-Christ qui est dit justement dans Jean 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, je le crois. Ce n'est pas pour exclure les gens qui ne seraient pas chrétiens, mais d'abord, le message de l'Évangile n'est pas une exclusivité. On a le droit de croire dans l'amour et le pardon, même si on n'est pas chrétien. Mais en tout cas, je crois effectivement que Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, en tant qu'incarnation de cette parole, est chemin, vérité et vie. Voilà. Donc ça, c'est une foi très, très intellectuelle, je dirais, et très christocentrique, et je l'assume pleinement. Mais vous voyez que craignez que je sois en train de tomber dans une sorte d'intégrisme finalement un peu exclusif, d'où, vous disais-je, la nécessité d'ouvrir un peu les textes. Et là, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, puisque quelques versets avant Jean 14, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus commence par dire, c'est dans un des textes que nous avons choisi, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père ». Et ce texte me réjouit justement par son ouverture. C'est-à-dire, certes, Jésus est chemin, vérité et vie, mais il y a quand même beaucoup de façons possibles d'habiter ce message. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Donc cette ouverture, je dirais, sur la possibilité de vivre de différentes manières sa foi, et même sur la possibilité de vivre de différentes manières l'Évangile, de différentes manières d'être chrétien. Il y a différentes maisons, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité ni les mêmes paramètres dans sa vie. Et donc, il y a un message global qui est celui de l'Évangile. Et après, écoutez, vivez-le à votre manière et habitez-le comme vous le sentirez, suivant votre propre sensibilité. Et en même temps, cela me convient, mais pas entièrement. Parce qu'on peut aussi voir les choses autrement. Et en particulier, il y a dans Matthieu, un autre passage, en Matthieu 11, quand Jésus dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Et là, c'est une leçon qui me tombe dessus alors que je commençais à m'enorgueillir de mon intellect, de mon intelligence, de mon adhésion, de mon choix, de ce message merveilleusement vrai et juste. Tout à coup, Jésus nous dit, mais vous savez, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une question d'intelligence. Ça peut être autre chose. Et il est bon de sortir un peu de l'évangile de Jean, même si j'aime beaucoup Jean. Mais vous savez que l'on dit que Jean, l'évangéliste, était un théologien. C'était un des grands prêtres du temple, et donc tout son évangile est très intellectuel, très intelligent. Et donc pour lui, la parole, c'est quelque chose qui s'étudie, qui se dissèque, sur lequel on réfléchit, sur lequel on se questionne. Et donc oui, pour lui, la foi est une adhésion intellectuelle. Et certains chrétiens sont comme ça, certains chrétiens aiment venir ici pour la prédication, d'autres viennent pour autre chose, pas obligé d'être simplement d'aimer les prédications. Et certains, même tellement motivés par l'écriture, apprennent le grec et l'hébreu parce qu'ils aiment réfléchir sur ces textes et se mettent à lire des théologiens savants, se mettent à lire Tillich, Bonhoeffer, Barthes ou d'autres encore, voire même vont aller chercher dans Spinoza. Et pourquoi pas? Mais la foi n'est pas que ça. Et Matthieu 11 nous le redit en disant « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ça aux sages et aux intelligents. » Et tout à coup, Jésus va dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire qu'il va présenter la relation au Christ non pas comme une relation d'intellectuel, mais comme une relation de relation, comme une dimension purement, je dirais, personnelle au Christ et pas intellectuelle. Et aussi que la théologie n'est pas nécessairement un discours compliqué. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ça aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux enfants. Le propre des enfants, c'est que à 10 ans, c'est rare qu'ils arrivent à lire Spinoza, Hegel et Kierkegaard, hein, mais en même temps, le propre des enfants, bon, il y en a plein de belles choses, mais je pense que c'est en grande partie quand même une dimension affective qui est essentiel. Nos enfants, on les aime. Quand un petit enfant, on ne peut que l'aimer. Et les enfants petits, Ils aiment leurs parents, enfin, c'est incroyable. Je t'aime maman, je t'aime papa, ils font des cadeaux pour la fête des mères. C'est pas aujourd'hui ça, la fête des pères et d'autres choses. Et donc, un enfant, c'est que de l'amour en fait. Et donc, effectivement, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux enfants, parce que les enfants, ils savent aimer et être aimés. Les enfants ne vivent qu'en relation. Un enfant petit, sans ses parents, il meurt. Et donc, il est totalement dépendant. Un enfant n'est que relation. Et ça, c'est quand même absolument essentiel. Et que cette relation, justement, avec le Christ ou avec Dieu, n'est pas qu'une relation intellectuelle. Et on peut avoir une véritable relation avec Dieu ou avec le Christ, je ne sais pas comment s'organise votre foi, avec le spirituel, qui est cette dimension affective de la foi, où je sais que j'ai en Dieu quelqu'un qui m'aime, que j'ai en Dieu un père, une mère, un parent qui m'accueille, qui me reçoit inconditionnellement, et que dans la prière, ce moment béni où je peux dire, parler à cœur ouvert, dans la prière, au ciel, à Dieu, à la Vierge Marie, qui vous voulez, je m'en fiche, mais en tout cas, je parle et je dis en totale confiance ce que peut-être je ne dirais même pas ni à mon médecin, ni à mon psychanalyste, ni à mes enfants, ni à mon conjoint. Et donc, il y a là un amour absolu et total, une confiance absolue qui est quelque chose d'absolument essentiel et qui change la vie, vraiment. Et donc, la foi, c'est ça aussi. Je ne dis pas que tout le monde a cette dimension de la foi, mais heureux celui qui arrive à découvrir cette dimension de relation à Dieu dans laquelle on peut s'abandonner dans une relation la plus simple, la plus pure, la plus belle, la plus extraordinaire qui soit, parce que dans cette relation à Dieu, on n'est jamais ni déçu ni trompé. C'est quand même vraiment une merveille absolue. Et pour vivre, on a besoin de nourriture, de manger, de sécurité, de toit, je ne sais plus quoi, mais on a besoin d'être aimé. Et en Dieu, il y a une source d'amour inconditionnel qui est une nourriture, un carburant de la vie, non seulement bien pour soi, mais qui permet aussi d'être capable d'aimer à son tour. Et puis, ce « Venez à moi » extraordinaire de Jésus, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », cette foi qui donne ce repos dont je vous disais, qui aide à porter le fardeau de la vie, à porter tant de choses. Quelle merveille! Et voyez à quel point je me suis là éloigné d'une foi purement intellectuelle, au-delà de la rationalisation, pour tomber dans une foi vécue, expérimentée, vécue avec son cœur. Alors je ne mets pas les deux en opposition, au contraire, mais je crois que les deux s'auto-alimentent en quelque sorte, et c'est quand même formidable. Mais c'est plus que ça encore. C'est plus que ça encore, et là, nous allons reprendre l'évangile de Jean, cette discussion de Jésus avec Nicodème, qui va nous montrer que la foi n'est pas juste une direction morale et puis un objet imaginaire et transitionnel pour se sentir bien. C'est pas juste un soutien psychologique et une adhésion morale ou philosophique. Dans la discussion de Jésus avec Nicodème en Jean 3, Jésus dit à son interlocuteur, il faut que vous naissiez de nouveau et d'en haut. C'est-à-dire ce thème de la nouvelle naissance, naître de nouveau et d'en haut. Alors, ça a été compris par les protestants évangéliques américains comme étant une image de la conversion, voire du baptême, ce que je vous souhaite à Thierry, que demain votre vie soit nouvelle, soit changée, transformée, renouvelée. Je n'y crois pas. Votre vie, elle est renouvelée de l'intérieur par le Christ, et nous tous, nous sommes appelés à, sans arrêt, à naître de nouveau, à trouver une source de vie qui vient d'ailleurs, et ce n'est pas l'acte du baptême qui va changer notre vie comme s'il y avait la veille et le lendemain. Par l'acte du baptême, on dit quelque chose qui est vrai, qui est important, et on veut le dire, comme on dit « je t'aime » parce que c'est vrai, ou comme des époux, quand ils se marient, se disent leurs vœux, leurs promesses d'amour inconditionnel, et ils s'aiment déjà, donc tout est bien, mais on le dit publiquement, c'est merveille que de le dire et de ne pas le garder pour soi. Mais donc, Cette histoire de nouvelle naissance est formidable parce que ça montre que justement, cette foi n'est pas juste quelque chose qui fait du bien et une adhésion morale positive, mais c'est beaucoup plus profond, quelque chose qui change la vie, autrement dit, quelque chose qui change la vie. Et c'est pas un plus dans son existence, c'est une reconstruction, une vie nouvelle qui donne une dimension nouvelle. Et puis surtout, ce texte fait apparaître un élément essentiel qui avait échappé jusqu'ici et qui est l'esprit, naître d'en haut et d'esprit. Alors, le Saint-Esprit nous manquait, tiens, celui-là, on avait Dieu, on avait Jésus, il manque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est essentiel. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Alors, je vous expliquerai ça une autre fois, mais pour dire en quelques mots, le Saint-Esprit, vous savez que le mot « esprit », en latin comme en grec comme en hébreu, c'est le même mot que le souffle. C'est-à-dire, c'est le souffle vital, et si je ne respire pas, je meurs. Et donc, le souffle, c'est ce qui me donne envie quand Dieu crée l'homme ou tout être vivant, il met du souffle dans leurs narines et quand il respire, il vit. Le bébé naît, il respire, il vit. Quelqu'un qui ne respire plus, il meurt. Et donc l'esprit, le souffle, c'est la vie. Et le Saint-Esprit, c'est de dire il y a en Dieu une source de vie d'une autre nature. Et il y a en Dieu quelque chose qui vraiment me donne la vie et une source de vie qui est une mise en mouvement et de dire que justement Dieu est esprit et qu'il faut arriver à naître d'esprit, c'est dire que c'est, voyez-vous, plus que un petit idéal moral auquel j'adhère ou un petit soutien psychologique le soir pour me consoler de mes soucis, cette présence de Dieu, de l'esprit et que l'on trouve insufflée dans cette parole du Christ, elle est source d'une vie nouvelle, c'est-à-dire quelque chose qui change toute la vie. C'est pas un plus, ça change la vie en profondeur. C'est une source d'une vie nouvelle, d'une mise en mouvement, d'une renaissance et d'une résurrection. Et là, vous voyez, on tombe dans quelque chose d'extrêmement fort, essentiel et vital. Donc oui, il faut arriver à comprendre que en Dieu, nous pouvons naître des créatures nouvelles et que nous pouvons trouver une source de vie dans cette présence spirituelle de Dieu donnée en Jésus-Christ et qui ruisselle de la parole et que ça fait nous fait naître de nouveau. Et en même temps, ce merveilleux dialogue de Nicodème avec Nicodème en Jean 3 relativise mon premier point dont j'étais si fier pourtant, voilà, en disant « je sais en qui j'ai cru ». Et là, Jésus conclut son discours avec Nicodème à propos de l'esprit en disant à Nicodème, tu sais, l'esprit souffle où il veut. On ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, mais on entend son bruit. Ça, c'est incroyable. L'esprit, qui est Dieu lui-même, puisque Dieu est esprit, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, mais j'entends son bruit. Et voyez que tout à coup, ce texte relativise mon premier point quand je vous disais « je sais en qui j'ai cru », quand je vous disais « je sais qui est Dieu », « je sais quel est le message du Christ », ça fait rigoler. Non, je ne sais pas qui est Dieu et je ne sais pas tout de ce qu'est la puissance de Dieu. Et en fait, le vent qui est l'esprit, donc je vous ai dit le vent, le souffle, c'est l'esprit, le même mot, on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. Et donc il y a en Dieu quelque chose de mystérieux qui nous dépasse infiniment. Et si je prétendais savoir qu'est Dieu, j'en ferais une idole, j'en ferais une superstition si vous voulez. Si je savais ce que Dieu demande exactement que je vive, j'en ferais une sorte de morale à appliquer, mais c'est pas ça. Dieu est au-delà de ce que j'en comprends, au-delà de ce que j'en sais, et je sais... Est-ce que je sais encore en qui je crois ? Je ne sais plus très bien si je sais en qui j'ai cru. Je sais en gros, quoi. Mais il y a quelque chose qui me dépasse infiniment. Est-ce qu'il n'y a pas dans la foi, justement, cette espèce de quête de transcendance, de quelque chose qui me dépasse infiniment et qui dépasse même mon entendement ? Et donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas, en fait, qui est Dieu. Et je ne sais pas où me mène ma vie. Je ne sais même pas ce que je dois faire, comment je dois faire, comment je dois aimer, comment je dois servir. Je ne sais pas. Et cette présence de Dieu dans ma vie reste quelque chose d'un peu mystérieux parce que je ne peux pas l'enfermer dans une pratique, dans un dogme, dans une morale ou dans un discours, quel qu'il soit, mais il y a quelque chose qui me dépasse. Voilà. Et j'aime cette idée de cette quête de Dieu qui nous amène vers un absolu, vers une transcendance et du coup aussi vers une humilité totale de dire « je ne suis pas moi-même le centre du monde, mon intelligence ne peut pas tout comprendre ». Bon, cela dit, ce que je comprends, j'aime bien qu'on me dise pas que... Bon, je crois quand même dans la valeur de la raison, donc je suis rationaliste, mais Dieu dépasse ma raison, il la contredit pas, il la dépasse infiniment, et donc ça va au-delà de tout ce que je peux savoir, et Dieu c'est l'infini, le tout autre dont parlaient les théologiens du Moyen-Âge. Mais simplement, voilà, qu'est-ce que je vous dise, je ne sais pas ni d'où il vient ni où il va, mais j'entends sa voix. Et donc là où il est, là où il me rencontre en moi, je dis oui, là il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Cette présence de Dieu qui me transforme, qui me donne la vie, qui m'oriente, qui me dirige et qui est pour moi chemin, vérité et vie. Alors, comme dit Thomas à Jésus, mais nous savons même pas où tu vas. Il dit, comment connaîtrions-nous le chemin? Et Jésus dit, bah, écoutez, savoir où je vais, vous verrez bien. En attendant, vous avez le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il y a quelque chose qui me dépasse, mais en tout cas, moi, j'en ressens son effet, et donc je comprends que c'est là quelque chose d'essentiel. Et puis du coup, ça m'amène aussi dans une autre autocritique à propos de ma prédication de jeune pasteur quand j'avais 30 ans, donc, où j'avais prêché sur « Je sais en qui j'ai cru », et à ce moment-là, vous pourrez la réécouter, elle se trouve encore sur le site de l'Étoile, étoile.pro, je crois, sur la tête, la première prédication du site, la plus ancienne. Et à ce moment-là, j'avais dit, écoutez, en fait, on peut très bien vivre sans foi, il y a des tas de gens qui vivent sans foi, donc, mais la foi, c'est un plus, quoi, c'est bien, c'est une élévation morale, c'est un soutien, c'est merveilleux, quoi, c'est bien. Et en fait, j'avais oublié tous ces autres textes qui viennent après. La foi, d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit le pasteur que j'avais invité pour prêcher pour ma consécration, parce qu'à la consécration d'un pasteur, il y a deux sermons. Il y a le pasteur parrain quoi, qui prêche et puis le jeune pasteur qui prêche. Et donc mon parrain, qui était le pasteur Serge Oberkampf à l'époque, qui est aujourd'hui défunt, m'avait fait une critique à la fin en disant « Tu as tort, parce que tu fais de la foi la cerise sur le gâteau, mais la foi n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est le fondement même de tout. » Bon, j'ai mis 35 ans à me dire qu'il avait raison. Oui, la foi n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est le centre, la base, le fondement, ce sur quoi je construis et ce sur quoi toute ma vie peut tenir. C'est pas le petit final touch que je rajoute pour être quelqu'un de bien. C'est une restructuration, une façon de repenser sa vie tout à fait autrement. Et du coup, je suis allé chercher chez Paul un autre verset. Donc, je sais en qui j'ai cru, je vais le mettre de côté, mais il y a un autre verset que j'avais aimé quand j'étais jeune et auquel je renonce moins, peut-être plus intéressant. Et je l'avais aimé de telle manière que je l'avais gravé. Vous savez que je joue du luth, ce qui est une qualité ou un défaut, si vous jugerez, mais... J'en ai fabriqué un dans ma vie. J'ai fabriqué un luth de mes mains, qui n'a jamais fonctionné, je vous rassure, mais bon. Il est néanmoins, et j'avais gravé sur la rose du luth un verset biblique que j'avais mis en grec, « Emitosin Christos ». C'est Philippiens 1, 21. « Emitosin Christos », qui se traduit « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Ah oui, c'est beaucoup plus fort, ça. « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Traduit parfois par « Christ est ma vie ». Pour moi, vivre sa Christ. Voilà un beau verset, parce que oui, Christ, effectivement, est ma vie, et après avoir bien souvent, je dirais, un peu rabaissé le Christ en disant « Jésus, c'est un type sympathique qui nous a dit des choses très bien sur Dieu et qui nous a montré un chemin tout à fait positif pour la vie », je pense que la foi chrétienne ne peut être que fondamentalement christocentrique, c'est-à-dire centrée sur le Christ, par tout ce qu'il représente, justement, d'incarnation de la parole, de témoignage, d'attention, d'amour, de don et de service, mais aussi parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible, il est un chemin de grâce, de paix et de joie, il est vérité absolument, parce que son évangile est la parole la plus juste et la plus vraie que pour moi, pour l'humanité, que je puisse savoir, et il est la vie, voilà, parce que vraiment il y a en Christ une source de vie, une source de vie extraordinaire, il est ma vie et il est source de vie pour tout le monde. Et donc oui, quand nous nous demandions comment résumer toute la foi chrétienne et comment pouvons-nous trouver la confession de foi la plus courte, la plus synthétique qui dise la foi chrétienne en dessous de laquelle on n'est plus chrétien et sans qu'on en rajoute trop, parce que est-ce qu'on est obligé de croire en ceci, en cela, machin, j'en sais rien, mais le minimum de la foi chrétienne, ce qu'aujourd'hui nous, donc vous direz peut-être tout à l'heure Thierry, après votre baptême, en réponse à cette grâce de Dieu, et c'est je crois en Dieu par Jésus-Christ, oui c'est ça, et après tout ce qu'on met dedans, ben, vous réécouterez ce que je viens de vous dire, hein, et ce que j'ai oublié de vous dire. Je crois en Dieu par Jésus-Christ, telle est ma foi, et j'en rends grâce à Dieu. Amen. Il y a encore une dimension que j'aurais pu évoquer, c'est la dimension communautaire. Et donc nous allons l'évoquer par le chant du cantique. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps.